Dominique Rodrer. Comment ça s'écrit ?
Bonjour, le colonialisme a précédé Christophe Colomb, mais avec lui, il a pris une autre dimension. C'est ce qu'Aimé Césaire appelait le génocide par substitution. Et si Haïti, souvent présenté comme un pays maudit, avait connu sa première malédiction le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre 1492, quand Colomb y accosta pour la première fois, les Amérindiens Taïnos vivaient alors dans la terre des hautes montagnes, parmi eux la belle Anacaona, qui deviendra plus tard la figure de la résistance au conquistador et qui fascine tant notre invité qu'elle a pris son nom comme nom de plume et aussi pour le donner à ses éditions. Bonjour Paola Anacaona.
Bonjour Dominique.
Vous publiez chez vous donc aux éditions Anacaona un roman graphique illustré par Claudia Amaral, 1492, Anacaona, l'insurgé des Caraïbes. Vous n'êtes pas haïtienne d'origine mais brésilienne. Comment s'est inscrite en vous l'histoire d'Anacaona au point de vouloir prendre son nom pour vous et pour vos éditions?
Donc c'est vrai que l'histoire d'Anacaona, c'est une histoire qui me fascine depuis très longtemps. Et en vérité, il y a une vingtaine d'années, donc quand j'étais toute jeune, c'était une bande de Cubains qui m'avait surnommée Anacaona, un petit peu pour rigoler. Parce que à Cuba, Anacaona est relativement connue. Fidel Castro en a fait une de ses héroïnes. Et en fait, c'est un petit peu un synonyme de femme à forte personnalité. Et donc, bon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce groupe d'amis m'avait
donc
surnommée comme ça.
Donc vous aviez une forte personnalité.
Voilà,
alors,
il faut disons-le. Croire. Et puis, quand j'ai monté ma maison d'édition, ça fait maintenant 9 ans, et que je cherchais un nom à lui donner, même si je savais que j'allais me consacrer à la littérature brésilienne, j'ai trouvé que le nom d'Anacaona, déjà, bon, il est super poétique, et je trouvais que c'était un beau symbole de résistance culturelle à donner à cette maison d'édition. Donc, c'est comme ça que les éditions Anacaona sont nées.
Anacaona, figure de proue à la résistance anti-colon, après avoir d'abord cherché à vivre en bonne intelligence avec les Espagnols. Donc, ça n'est pas un personnage de légende, elle a vraiment existé.
Oui, complètement. Elle a vraiment existé, même si on a très peu de traces en fait d'elle, parce que c'est vrai que Colomb, dans ses 1500 pages de journal que j'ai lues l'une après l'autre, il mentionne Anacaona seulement deux ou trois fois, alors qu'en fait c'était une des reines d'Haïti, puisque Haïti était divisée en plusieurs royaumes, et elle avait en fait un pouvoir très important, à l'égal avec son mari. Et moi en fait j'ai eu envie d'écrire cette histoire qui me hantait depuis longtemps, parce que je trouvais assez symptomatique que les Cubains la connaissent, les Haïtiens la connaissent, les Portoricains la connaissent, mais en Guadeloupe, en Martinique, dans les Antilles françaises, elle est peu connue.
Et même donc, à Haïti, elle n'est pas invoquée si souvent que ça.
Ouais, voilà. Donc je me suis dit, je pense que surtout en notre époque actuelle, on a tous besoin de héroïnes autochtones. Je pense qu'on a un petit peu envie de revisiter cette histoire coloniale et d'avoir des héros.
Alors on sait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Avec Anacaona, vous avez voulu montrer comment pourrait s'écrire la même histoire de 1492 par les vaincus.
Exactement. C'est-à-dire que effectivement, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis rendu compte que les seuls témoignages que j'avais, c'était des témoignages écrits par les Espagnols. Parce que c'est vrai que lors de la conquête mexicaine, on a eu des Amérindiens mexicains qui ont appris l'espagnol et qui ont pu écrire. Mais les Taïnos, ils n'ont pas eu cette chance. Ils ont été exterminés trop vite. Donc on n'a aucun témoignage direct de leur part. Donc j'ai vraiment lu ces témoignages espagnols, donc de Colomb, de Bartolomé de Las Casas ou d'autres. Après, en essayant un petit peu d'inverser l'histoire et de me dire, mais comment Anacaona aurait pu réagir? Donc pour moi, c'était très important d'écrire aussi ce livre à la première personne. C'est-à-dire que c'est Anacaona qui parle. Et donc, en fait, il y a une double narration. Il y a Anacaona qui parle et puis un narrateur un petit peu neutre.
Les civilisations américaines précolombiennes ont vécu fermées sur elles-mêmes, isolées pendant des siècles, à la différence de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe qui avaient toujours été en contact. Les Européens ignoraient totalement l'existence de l'Amérique et vice-versa. Cette rencontre a donc été d'une grande intensité. La découverte de cette autre sera un choc pour les Espagnols comme pour les autochtones américains. Mais rencontre-t-on vraiment quelqu'un quand, dès le départ, le sentiment de supériorité prévaut ? Certes, Colomb, lors de son premier voyage, dit du bien des Indiens dans son journal, mais dans les faits, il ne leur parle jamais. Cristobal Colomb a certes, et sans le vouloir, découvert l'Amérique. Mais il n'a pas découvert les Américains.
Premier extrait de 1492, Anacaona, l'insurgé des Caraïbes, lu par Patrice Elidicozac. Cristobal Colomb, c'est évidemment Christophe Colomb en version espagnole. Alors comment cette histoire aurait pu s'écrire autrement, sachant qu'à vous lire, Paola Anacaona, Christophe Colomb était peut-être le moins pire des conquérants?
En fait, j'avais très envie d'écrire l'histoire du point de vue des vaincus, comme vous l'avez dit, parce que je pense qu'une histoire n'est complète que quand on a tous les points de vue. Or, on a tendance à l'école à apprendre que cette histoire-là, l'histoire racontée par les vainqueurs, et à nous faire croire que c'est une histoire objective. Alors que je pense que l'histoire n'est jamais objective. Et plusieurs personnes, quand ils ont lu mon livre, m'ont dit « Oh, dis donc, ton livre, il est drôlement engagé, etc. » Et non, en fait, je ne pense pas qu'il soit plus engagé que le journal de Christophe Colomb. Mais on a tendance souvent à nous présenter l'histoire, quand c'est nous qui la racontons, comme très subjective, très engagée, alors que je pense que même l'histoire officielle l'est aussi.
Oui, mais alors justement, face à une histoire qui, comme vous le dites, a trop longtemps été racontée de manière univoque, les aspects positifs de la découverte de l'Amérique, est-ce qu'il n'y a pas pour vous la tentation de faire le contraire en présentant les Taïnos, par exemple, comme un peuple sans défaut ?
C'est vrai qu'il y aurait une tentation, effectivement, à présenter les Taïnos comme ça. En même temps, du peu que j'ai pu connaître, ils étaient dans une relation avec la nature qui est assez admirable. Et j'ai l'impression qu'on est plutôt aujourd'hui en train d'essayer d'y retourner. Donc ça, c'est plutôt admirable. Et puis, par exemple, par rapport à d'autres civilisations des Amériques, je pense notamment aux Incas, les Taïnos étaient vraiment pacifistes. Donc il y avait
la question des sacrifices humains, par exemple, ne se posait pas.
Il n'y en avait pas chez les Taïnos. Donc ils se faisaient effectivement un petit peu la guerre entre différents peuples des Caraïbes, mais ils étaient vraiment beaucoup moins belliqueux que certains peuples. Et puis, je me dis, même si peut-être j'ai poussé le trait un peu trop loin et j'ai présenté les Taïnos que comme des gens sans défaut, je pense que de temps en temps, ça peut aussi faire un peu du bien.
Alors, vous l'avez dit, vous avez choisi la forme du roman illustré et choral, le récit de la conquête d'un côté, les impressions à la première personne d'Anakaona de l'autre. Comment est-ce qu'on se fait accompagner sur ses choix éditoriaux quand on est sa propre éditrice ?
Déjà, j'ai un petit groupe de lecteurs critiques. Donc voilà, par exemple, je parlais tout à l'heure de ceux-là qui me disaient oh, que mon roman était engagé. Donc voilà, en fait, j'ai certains lecteurs à qui je fais confiance, donc à qui j'ai prêté le livre avant qu'il soit imprimé. Après aussi, en tant qu'éditrice, quand même, j'ai plus de 50 livres à mon catalogue. Je pense que même quand c'est moi qui écris, etc., j'ai un certain regard critique. Et puis avec l'illustratrice, c'est ça qui était super, parce que c'est une Brésilienne, mais qui habite en France. On a fait un vrai dialogue. Donc elle ne connaissait pas l'histoire d'Anakaona, mais en revanche, c'est une femme qui est très sensibilisée à la cause autochtone brésilienne. Donc elle m'a aussi un petit peu apporté son regard et donc on a beaucoup discuté entre nous.
Comment ça s'écrit ?
L'histoire n'a pas qu'une seule voix et les grandes dates historiques résonnent différemment aux oreilles qui les entendent. 1492 peut aussi bien signifier l'élan d'un nouveau monde que la fin d'un monde. Nouvel extrait de 1492, Anakaona, l'insurgé des Caraïbes, lu par Patrice Elidi-Cosac.
À leur insu, les navires ont transporté dans leur cale, et les hommes dans leur corps, des bactéries, des graines, des moustiques, des insectes, des cafards, des lombriques, des rats, des mangoustes, toute une variété d'espèces et de micro-organismes qui vont rapidement envahir puis dévaster la vie sauvage d'Haïti, jusqu'alors préservée des contacts avec l'extérieur. Par ailleurs, l'absence d'animaux brouteurs dans les Antilles a rendu la flore très fragile et la faune vulnérable face à l'introduction de tout élément non natif. Les populations d'espèces importées, sans prédateurs naturels, vont rapidement exploser. Elles étoufferont les espèces locales et deviendront pour certaines de véritables fléaux.
Sans le savoir, les conquistadors ont emmené dans leur cale l'arme bactériologique. Est-ce qu'on peut parler de génocide involontaire comme il y a des homicides involontaires ?
Oui, en fait, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit ça, m'ont dit oui, mais en fait, la disparition des Taïnos ou des Amérindiens, ça ne peut pas être qualifié comme un génocide parce qu'en fait, ils sont morts d'épidémie. Mais ça, je trouve que c'est trop facile de se laver les mains comme ça. C'est-à-dire que je pense que les Européens étaient tout à fait conscients. Bon, ils n'ont pas fait exprès d'amener les épidémies, mais dès qu'ils ont vu qu'elles arrivaient, ils étaient tout à fait conscients de ce qui se passait.
Ça les arrangeait d'une certaine manière.
Voilà, je pense qu'au début, en tout cas, ça les arrangeait. Après, ils se sont fait un petit peu déborder puisqu'ils n'avaient plus de main-d'œuvre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis en place le commerce triangulaire avec l'Afrique. Mais je pense que le fait qu'ils n'aient pas prévenu les Taïnos sur les manières éventuellement d'empêcher les épidémies, alors qu'ils savaient qu'on pouvait faire des quarantaines, je pense que ça montre leur responsabilité.
Alors du coup, les chiffres hurlent. En moins de 3 générations, la population des Taïnos d'Haïti passe d'1 million de personnes à 13. 13 personnes.
C'est effarant. Vraiment, et là où j'ai vraiment, quand j'ai écrit le livre, je me suis vraiment emparée là du sujet, c'est quand j'ai commencé à faire des divisions, en disant non mais attendez, 1 million en 63 ans, si je divise ça par an, si je divise ça par jour, combien ça fait? Et en fait, c'est là où je me suis dit que la mort était vraiment physique, c'est-à-dire que je pense qu'ils avaient des tas de cadavres et qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Et donc c'est là où je me dis, ça a dû vraiment, parce qu'il y a eu beaucoup de suicides taïnos, et je pense quand vous voyez des montagnes de cadavres à côté de vous, bah effectivement, vous voulez laisser mourir.
Les Taïnos ont-ils réagi trop tard, même si c'était une guerre asymétrique? Ils avaient pour eux, au début, la loi du nombre. Est-ce qu'il aurait fallu qu'ils soient tout de suite dans la lutte armée?
C'est vrai que je me suis beaucoup posé la question, aussi beaucoup posé la question par rapport à l'attitude d'Anacaona, parce que c'est vrai qu'au début, elle a, comme vous l'avez dit, elle a un petit peu fait ami-ami avec Colonne, mais je pense qu'en fait, c'était complètement pas dans leur système de pensée d'imaginer ce qui pouvait arriver. Donc je pense qu'ils imaginaient ces Espagnols qui arrivaient, pour eux, ils allaient forcément repartir. Il ne pouvait pas y avoir de colonisation. Et donc, voilà, ils n'avaient pas anticipé.
Cependant, quelque chose chez les Espagnols submerge Anacaona. C'est comme une vague qui avance, impossible à réprimer. Elle se sent engluée dans une immense toile d'araignée dont elle n'arrive pas à sortir. Elle n'arrive pas à les comprendre, à se faire comprendre, à leur parler. Jamais auparavant, les Taïnos n'avaient créé de telles différences entre eux. Entre hommes et femmes, entre nobles et sujets, entre Taïnos de Marienne et de Maguana. Anacaona n'a jamais régné ainsi de façon aussi inéquitable. Que dirait son père, Concatecua? Que dirait sa mère, Bibi? C'est trop tard. La séparation entre Taïnos s'insinue sournoisement. Anacaona est prise au piège.
Dernier extrait de 1492, Anacaona, l'insurgé des Caraïbes, lu par Patrice et Lydie Kozak. Polak, Anacaona, est-ce qu'on peut faire de votre héroïne une Pocahontas haïtienne?
En tout cas, c'est sûr que moi, j'ai vraiment voulu écrire ce livre pour la réhabiliter, pour réhabiliter les Taïnos. Et c'est assez marrant, en fait, de voir le retour des lecteurs. Beaucoup de gens, en fait, me remercient. Et alors que j'ai déjà écrit un roman où les gens me disaient « oui, j'ai bien aimé, blablabla », mais les gens ne m'avaient pas remercié. Alors que là, les gens me disent « merci au nom de notre mémoire, au nom de notre histoire ». Donc je pense que voilà, c'est une héroïne qui... Et j'aimerais bien qu'il y ait d'autres livres qui soient écrits sur elle. Il y a déjà le livre de Jean Métellus, une pièce de théâtre.
Et le fait que c'est un livre graphique, un roman graphique, est-ce que ça veut dire que c'est un livre pour la jeunesse?
En fait, voilà, j'ai voulu mettre ce côté graphique parce que déjà, les Taïnos, c'était un peuple voilà, avec des telles couleurs que je trouvais que c'était sympa de le mettre par écrit. C'était aussi pour donner une certaine accessibilité, parce que je sais que les livres un peu historiques peuvent faire peur à certains lecteurs. Donc en fait, moi, je le conseille à partir de 15 ans. Je pense qu'avant, c'est quand même une réalité un petit peu dure. Mais voilà, des adolescents à partir de 15 ans, pour connaître leur passé commun, parce que ce n'est pas un livre qui s'adresse uniquement aux Antillais. Je pense que c'est un livre qui s'adresse aussi aux Français de métropole, parce que c'est notre histoire à tous.
Alors, en dehors de Anacaona, vos éditions s'intéresse surtout au Brésil. On parle beaucoup en ce moment de la forêt amazonienne qui brûle, du président Bolsonaro. Est-ce que ce sont des sujets dont vous pourriez avoir envie de vous emparer sur le plan éditorial?
Complètement, parce qu'en fait, justement, ma maison d'édition, donc je publie des livres brésiliens et leur caractéristique, c'est que ce sont quand même des livres souvent très engagés. On a publié beaucoup de livres qui se passent dans la favela et qui dénoncent les inégalités des favelas, qui dénoncent la violence policière et la violence générale. Donc quand je vois Bolsonaro qui dit qu'il faudrait armer chaque Brésilien, ça me fait hurler. Donc c'est des thèmes dont je parle depuis longtemps. En fait, ça recoupe aussi un petit peu l'histoire d'Anacaona parce qu'on a sorti plusieurs livres sur la résistance des esclaves marrons. Donc ce sont des thèmes, en fait, c'est pas innocent que j'ai sorti ce livre-là, ce sont des thèmes qui me préoccupent.
Merci beaucoup, Paula Anacaona. Nous recommandons votre roman graphique illustré par Claudia Amaral, 1492, Anacaona, l'insurgé des Caraïbes. Merci également à Patrice Elidikozak et à Bruno Dessomme.